Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Le Zénith d'Amiens, qui peut accueillir près de 5000 personnes, a ouvert ses portes ce matin, jeudi 4 octobre, à 9h, exceptionnellement. Sur scène, ce n'est pas un concert, ni un one-man show, ni un meeting politique, mais une audience prud'homale. C'est qu'il en faut de la place pour accueillir le procès qui oppose plus de 800 ex-salariés du fabricant de pneus Goodyear, les anciens de la zone industrielle d'Amiens Nord, licenciés en 2014, à leur ancien patron. Le conflit a commencé en 2007, quand la direction de Goodyear, pour faire face à ce qu'elle nomme des difficultés financières, demande aux salariés de réorganiser leur travail pour passer à des journées découpées en 4 x 8, c'est-à-dire de travailler plus à des cadences plus élevées pour le même salaire, ce que les syndicats et les employés refusent évidemment. Très bien, répond Goodyear, alors ce seront 402 licenciements. Un feuilleton syndical, juridique et social, avec des rebondissements incessants, commence alors, qui dure jusqu'aujourd'hui. Goodyear lance 2 plans sociaux qui sont contrecarrés par la justice, les salariés entrent régulièrement en grève, et le géant américain Titan envisage même un moment de reprendre l'usine avant de lâcher l'affaire. 2 dirigeants sont même séquestrés par les ouvriers pendant 30 heures, ils ont été récemment condamnés pour cette action. En janvier 2014, et après 7 ans de bras de fer, l'usine Goodyear d'Amiens ferme finalement ses portes et laisse sur le carreau 1143 salariés. Le groupe a cessé d'investir dans l'usine, la production a chuté net, et d'après la direction, le site génère chaque année 60 millions d'euros de pertes. Pour les anciens salariés, ce chiffre reste pourtant faible comparé aux 2,7 milliards d'euros de profits nets d'impôts et de dividendes que le groupe réalise l'année de la fermeture. En ce jour d'audience et d'épilogue peut-être d'un conflit emblématique de notre époque, nous sommes donc allés voir ces ouvriers licenciés qui réclament une indemnisation équivalente à 3 ans de salaire. En attendant le résultat d'un jugement qui sera rendu au début de l'année 2019, nous avons voulu savoir ce qu'ils sont devenus, s'ils ont retrouvé du travail ou pas, comment on s'en sort après 10 ans de lutte et d'incertitude. Ce sont des histoires racontées par Judith Chétrit.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je me présente Sabrina. J'étais l'épouse de Laurent, qui a travaillé pendant 11 ans et demi à Goodyear d'Amiens, dans la Picardie. Avant, mon mari, il était maçon. Après, il y a un ami qui lui a parlé de Goodyear, qui recherchait des intérimaires, tout ça. Après, il a été postulé dans la boîte d'intérim. Après, il a commencé à être intérimaire en novembre 2002. Il a été embauché en, je crois bien, c'est en mai 2003. Un intérimaire est touché dans les 2000, ça dépendait. Mais après, quand il était embauché, il touchait dans les 1800 euros. C'était une bonne paye, parce qu'en maçonnerie, en bâtiment, c'était pas ça. Lui, son travail à Goodyear, c'était tout. C'est comme s'il aurait pu prendre son lit pour habiter là-bas, il aurait pris son lit. Quand un de ses collègues demandait « Bon, tu me remplaces ?» Il disait toujours oui, il disait jamais non au chef, jamais. Quand il a su que l'usine était en danger, il se rendait toujours au truc de grève, tout le temps. Puis dès qu'il a reçu sa lettre, il disait « Ça y est, c'est foutu. » Il avait reçu une liste par courrier, avec la lettre « Licenciement », pour aller travailler ailleurs, dans une autre usine, en dehors de la France. Il a dit non parce que comme on avait la femme, ses parents, ils habitaient par ici, ma maman aussi. C'est pour ça qu'il a dit non. Il allait à des réunions d'information pour comment ça va se passer après. Mais à force, il ne voulait plus sortir. Il me parlait très peu. Il a eu un traitement dépressif. Il n'avait plus le goût de la vie. Le jeudi 27 mars 2014, il avait un entretien pour retrouver un emploi avec une dame qui travaillait pour l'usine. Puis ce jour-là, il ne voulait pas y aller. la femme même elle a appelé. Quand je m'approchais de lui pour lui donner le téléphone, il partait dans la salle de bain. Moi, j'allais derrière lui. Je dis à la dame, elle veut te parler. Il repartit dans la cuisine. Il voulait pas à la fin du compte. J'ai appelé la maison médicale. Après, le médecin il est passé dans la matinée du 27. Il lui a parlé doucement. On était assis à la salle à manger. Oui, j'ai envie de me suicider, mais je peux pas le faire. Il a dit ça très doucement au médecin. Je peux pas le faire parce que comme il a la petite puis ma femme dans la maison, je peux pas le faire. Puis moi, j'ai répondu, je suis levée, j'ai quoi? Puis il m'a pas répondu. Puis après, le médecin, il lui a répondu, t'es sûr, Laurent? Il fait, oui, j'ai envie de le faire, mais je peux pas. Puis après, le médecin, il a répondu, là, je suis obligée de te hospitaliser. On s'est rendu sur Amiens, à l'hôpital Nord. Puis après, l'hôpital, ils ont dit, bon, on va vous mettre un service pour vous reposer, tout ça. D'après moi, il avait un psychologue, tout ça. D'après moi, je n'ai vu un. Ils m'ont demandé comment il était dans la vie, s'il était violent, tout. Moi, j'ai dit non, on est non violent. Puis après, vers 1h du matin, du 27 au 28 mars 2014, une infirmière qui est venue nous voir. Vous ne devez pas rester là, on doit vous envoyer dans notre hôpital où vous dépendez. Après, on est parti en ambulance, tout ça. Puis dans l'ambulance, il me dit... Il me touchait toujours mon bras gauche. Il me faisait plein de bisous sur mon bras gauche. Il me disait, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Puis il me disait, c'est foutu, c'est foutu. Puis il me regardait avec sa tête malheureuse. Il était très mal, mon mari. Il me regardait comme un enfant qui était mal, tout. Après, je lui ai dit, bon, dès que je rentre à la maison, je t'appellerai pour te dire que je suis bien arrivée, comme ça tu parleras avec la petite au téléphone, tout. Le médecin a répondu, non, vous l'appellerez pas, c'est hors de question. Vous pouvez pas l'empêcher. Il habite, quand il travaillait à Goudjoie, quand il était pas à la maison la nuit, tout ça, il me parlait au téléphone, quand il était en pause, tout ça. Après, l'infirmière me disait, vous viendrez ce week-end, vous passerez le dimanche toute la journée ici, tout ça. Et le vendredi matin, j'ai reçu un coup de téléphone de l'hôpital. Bonjour madame, là je suis le médecin de l'hôpital de la maison de repos de Péronne. Je vous téléphone parce que votre mari vient de se suicider. J'ai quoi? Il dit c'est pas possible. Mais comment il a fait ça? Avec la barre de douche. Puis là, on a essayé de la ranimer, on n'arrive pas, il faut vous rendre vite à l'hôpital. Je peux pas prendre la petite pied à voir tout ça. J'étais perdue, je savais pas comment faire. Après, le vendredi après-midi, je suis rendue à l'hôpital. Ils m'ont expliqué qu'il est dans le coma artificiel. On laisse jusqu'à dimanche branché pour voir s'il a il peut revenir à lui, tout ça. Mais s'il revient à lui, je préfère vous annoncer qu'il recette un légume. Il était branché de partout. Il avait des tuyaux dans la bouche, tout. Puis après, je suis sortie de la chambre, tout. Et j'ai reçu un coup de téléphone. C'était la gendarmerie de Péronne. D'après la femme, la brigadière, m'a dit comme ça, madame, il faudra qu'on se rencontre. Quand est-ce que je peux vous voir? J'ai pas la tête à parler de tout ça. Elle fait, vous savez comment il a fait ça, tout. C'était avec la barre de douche. Après, elle me fait, bon, je savais qu'il est lassé de ses baskets, qu'il a fait ça. Contre la penderie. De l'armoire. En plus, dans la nuit, j'avais dit à la fermière, vous prenez pas les baskets? Puis la fermière me disait, non, on prend pas les baskets, parce qu'on n'est pas dans une garde à vue ici. Le dimanche 30 mars 2014, en plus, c'est ma date de naissance, le 30 mars. Quand je suis arrivée à l'hôpital, il était parti passer un scanner. Puis là, on m'a dit comme ça, non, c'est la fin. On peut plus rien faire pour votre mari. Puis c'est là que je criais, je tapais une crise de nerfs. Puis après, je l'embrassais tout dans son lit de l'hôpital. Il s'est suicidé parce qu'il a perdu son travail. Parce qu'il n'aurait jamais cru qu'il aurait perdu son travail. Pour lui, c'était pour tout. Il aurait fait sa carrière là-bas, jusqu'à sa retraite. Encore maintenant, j'assiste aux réunions de prud'hommes, là. Avec l'avocat, tout ça. Je vois ses collègues, tout ça. Mon mari, il avait 39 ans quand ça arrivait. Il allait avoir ses 39 ans. Dès qu'il a su que, comme ça, que l'usine allait les fermer et tout ça, il disait toujours, j'irai jamais à mes 40 ans. Je souhaite déménager, tourner la page, mais les souvenirs restent dans la tête. Mais déménager, surtout déménager. Pur et sans face du cimetière.
N'oubliez pas que vous avez été licencié au cours de l'exercice 2014, exercice pendant lequel Goodyear a fait plus de 2 milliards de dollars de profit net. Vous imaginez ? Dans l'industrie pneumatique. Mais qui fait ça ? Comment pouvez-vous en même temps nous expliquer que c'était justifié de casser une usine, de détruire plus de 1000 emplois et de mettre des milliers de familles à la porte. Avec ce procès du 4 octobre, on rentre dans une nouvelle phase de la bataille. Et si on n'est pas tous aussi déterminés qu'on l'a toujours été, on n'obtiendra pas les victoires qu'on a déjà obtenues par le passé. Il n'y a pas que l'avocat, il n'y a pas que les juges, il y a d'abord et avant tout votre mobilisation, le nombre que vous serez dans la salle d'audience et la manière dont vous allez nous regarder en demandant justice.
France Culture, les pieds sur terre.
Donc, je m'appelle Michael Semedo, j'ai 42 ans. J'ai travaillé à Goodyear pendant 15 ans. J'étais opérateur au laboratoire, j'étais membre du CHSCT et suppléant délégué du personnel. Donc au laboratoire, j'analysais et j'étudiais la gomme pour pouvoir savoir si elle pouvait continuer son chemin dans l'entreprise, parce qu'elle pouvait, si elle n'était pas bonne, elle pouvait détériorer des machines ou donner des mauvais pneus. Et s'il y avait un problème, par exemple une gomme pas bonne qui était mal malaxée, mal mélangée, mon rôle était d'appeler ce qu'on appelle les bamburies, et de prévenir du danger. Les bamburies, c'est l'endroit où on mélangeait la gomme, le soufre, le noir de carbone. Et c'était un endroit très difficile, très chaud. Il fallait vraiment avoir du courage pour travailler là-bas. J'ai vu pas mal de choses. Il y a eu, bien sûr, ça a monté jusqu'en janvier 2014. Ça a monté crescendo, on va dire. Il y avait les manifestations, il y avait le travail qui diminuait. Au début, on faisait 23 000 pneus voitures par jour. Ensuite, nous sommes descendus à 20 000 pneus. Ensuite, on nous a demandé 18 000 pneus par jour, toujours avec le même nombre d'effectifs. Après, on nous en a demandé 16 000. Voilà, ça descendait soit tous les mois, soit tous les deux mois. On nous en demandait de moins en moins à descendre à 5 000 pneus jour. Vous voyez, avec toujours le même effectif. Et au bout d'un moment, on nous a dit, ah ben non... On peut plus investir, les machines sont trop obsolètes, donc on n'investira pas. Et c'est là que ça a commencé vraiment à décliner. Donc quand Taylor, le PDG de Titan, qui fait semblant de vouloir reprendre l'entreprise, est venu et qui a dit que les Français n'étaient que des feignants en parlant de nous, ça nous a fait un tort absolument énorme, même dans notre propre famille, on va dire, dans des repas de famille où les gens nous disaient ben, « Pourquoi vous voulez pas travailler ?»« Pourquoi vous voulez pas faire ci ?» pourquoi... Alors que c'était complètement faux, quoi. Donc moi, en tant que délégué syndical des membres du CHSCT, je pouvais pas me permettre de laisser passer ce genre de choses. Il fallait que moi aussi, ben, je contre l'info en expliquant réellement aux gens ce qui se passait dans l'entreprise, quoi. Donc sur les 2-3 dernières années, je passais facilement par semaine, je passais mes 6 ou 7 jours sans aucun problème. Je restais 2, 3 heures, 4 heures selon ce que j'avais à faire, mais j'y étais tous les jours du lundi matin au dimanche. Et moi personnellement, je pensais qu'il allait y avoir une fin. On faisait tout pour la reculer, ça c'est sûr. On voyait bien qu'en réunion, que même dans les actes, dans l'entreprise, c'était fait pour nous faire comprendre que c'était terminé et qu'on nous ferait pas de cadeaux, en gros. le jour où ça a fermé, où le directeur et le RH sont sortis de l'entreprise, j'étais avec 4-5 délégués en bas dans notre bureau et on pleurait. J'ai commencé à penser à l'après Goodyear le lendemain de la fermeture, quoi. Donc moi j'ai eu la possibilité d'être licencié, enfin c'est pas moi qui ai eu la possibilité, c'est les règles en tant que IRP, instance représentative du personnel, de ne pas être licencié tout de suite. Donc avant même le début du congé de reclassement, l'entreprise ne fonctionnait pas, mais j'étais toujours salarié Goodyear. Donc je me suis dirigé vers des petites formations, ce genre de choses, et toujours avec une petite arrière-pensée de peut-être que si ça ne va pas, voilà, continuer dans l'industrie, parce que je voulais pas quitter l'industrie. Pour justement faire une formation en lean management, il me fallait une entreprise. J'ai envoyé une 50aine de CV avec lettre de motivation, j'ai eu une réponse. Et bon, coup de chance, l'entreprise m'a pris. Voilà, les questions, au début, par le directeur, c'était, qu'est-ce que vous voulez faire dans l'entreprise, quelle est votre formation, et ça a un petit peu débordé sur, vous venez de Goodyear, oui, donc comment ça s'est passé, et c'est arrivé à de quel côté vous étiez. Donc ma réponse a été, le bon, voilà. Donc là, j'ai eu un sourire du directeur, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez dire par le bon? Et je lui ai dit, j'étais membre du CHSCT, j'étais délégué personnel. Et là, il m'a dit, très bien, ok, mais au moins vous êtes franc, donc je vais vous prendre. Ensuite, j'ai terminé cette formation et justement, pendant ce temps, avec les responsables de l'entreprise, tout ça, ils m'ont dit, Michael, j'avais choisi quelque chose qui ne me convenait pas, en fait. J'avais choisi, je sais pas si les gens connaissent le Lean Management. C'est par exemple tout ce qu'il y a dans les entreprises, 5S, analyse du temps de travail, tout ça. Moi, j'étais parti dans l'idée d'aider les gens sur le poste de travail, en fait, à améliorer leurs conditions de travail. Et en fait, tout au long de la formation, je me suis aperçu que c'était plus pour donner plus de travail à une personne et enlever une personne sur le poste de travail, quoi. Donc, c'était absolument pas compatible avec mes idées et ce que j'avais fait avant. J'ai écouté justement les dirigeants de cette entreprise qui m'ont conseillé de faire de la formation, quoi, parce que j'avais un contact forcément très avenant avec les ouvriers, je les comprenais, je connaissais leurs difficultés, j'étais passé par des endroits où eux étaient passés aussi dans cette entreprise, donc j'ai obtenu le diplôme de formateur pour adultes, ce qui m'a donné un niveau 3, niveau BTS. J'étais arrivé chez Goodyear, j'avais un CAP, quoi. Donc ça fait une belle progression. Donc à la suite, j'ai voulu monter mon entreprise de formation, ce que j'ai fait. Et mon activité a duré 7 mois. 8 mois, pardon. 8 mois réellement où je commençais à vivoter, on va dire. J'avais quelques contrats à gauche, à droite, mais ça ne suffisait pas pour vivre, quoi. Voilà, et je me retrouvais là, même en voulant travailler beaucoup, en faisant des kilomètres et des kilomètres, je gagnais quoi si j'étale sur les 6 mois, on va dire 500 euros, quoi. Voilà. Et un jour, donc, j'ai reçu un appel de la DRH de chez Atos, à Système, qui recherchait mon profil, en fait. Qui est quand même pas n'importe quoi, parce que quand vous travaillez aussi dans l'aéronautique, vous vous dites, c'est quand même pas mal, quoi, c'est de l'industrie de pointe, c'est... C'est quelque chose que j'avais pensé faire, mais que je n'espérais pas spécialement, en fait, quoi. Donc j'ai dû refaire une formation de 3 mois, et ensuite j'ai intégré mon poste. Je dois faire l'inspection complète de l'avion, et je dois dire si tout est valide. Pour qu'on puisse mettre l'avion dans le Beluga, ce qu'on appelle le Beluga, c'est le très gros avion porteur qui lui envoie à Saint-Nazaire. Et ensuite, ça suit son chemin. Alors, je me dis que j'ai eu de la chance, que je suis peut-être tombé au bon moment, au bon endroit. J'ai rempli aussi les cases vides. Ce qui me manquait, j'ai essayé de remplir au maximum.
Comme beaucoup de personnes, j'ai mon père qui travaillait là-bas, qui a travaillé 32 ans chez Goodyear. Je suis rentré dès que j'ai quitté l'armée. Et c'était un emploi bien payé pour la région. Conditions très difficiles, mais bien payé pour la région. Parce que le sale, le bruit, la chaleur, porter de lourdes charges. Et j'ai travaillé toute ma carrière de chez Goodyear à la cave au Mambury, fabrication de la matière première pour les pneus touristes et tracteurs, et jusqu'à la fermeture de la société. Le plus dur pour moi, c'était de savoir qu'on allait être licencié, mais qu'on ne savait pas ni le jour ni la date, mais on savait que tôt ou tard, on allait être licencié. La résignation est venue vraiment sur la fin, sur les 6 derniers mois, comme on était sûr que ça allait fermer. Ben, on allait encore à l'usine parce qu'on était payé intégralement, mais c'était très, très dur à supporter parce que c'est 12 heures à l'usine en sachant qu'il n'y avait rien à faire. Et il y a des gens qui ont très mal supporté ça, qui ne supportaient même pas du tout. Ben, il y a des gens qui sont tombés en dépression, il y a des gens qui se sont mis à boire. Aller dans un endroit où on vous force à aller, à pointer, et puis attendre sur une chaise, à rien faire pendant 12 heures, on avait beau être payé, c'est pas, pendant des mois, c'est pas évident. Les deux derniers week-ends de l'année 2013, la direction avait mis les équipes de week-end en congé. Et quand on a repris le premier week-end de janvier 2014, on n'a pas travaillé du tout. Rien, il n'y avait rien à faire. On était de nuit. Quand je suis rentré chez moi, ben je me suis couché. Et après, quand je me suis levé vers 11h, midi, j'ai attendu aux informations à l'effet tropicardie que, comme quoi il y avait une réunion au matin qui s'était mal passée à l'usine et comme quoi le DRH et le directeur s'étaient retenus pour renégocier le plan social, mais qu'ils ne voulaient pas. Ça ne m'étonne pas du tout, parce que comme on savait que la direction ne voulait pas négocier, puis que nous, on ne voulait pas partir sans rien, on savait que ça pouvait finir qu'en clash. Donc, quand je suis rentré chez moi, là, je me suis dit qu'on est arrivé au terme de tout, parce que aussi bien du côté de la direction que les syndicats, que les ouvriers, on est arrivé à un stade de non-retour. Il fallait juste espérer une chose, c'est avoir un meilleur PSE pour pouvoir partir le plus rapidement possible et puis pour avoir du temps pour trouver un travail. Pour moi, c'est les conditions de travail que Goodyear ont imposées aux gens, qui ont soudé les gens, et le plan social a renforcé cette union entre les ouvriers. Et c'est ça que je pense que Goodyear n'avait pas prévu. L'indemnité de licenciement, on discutait beaucoup avec les copains pour savoir à quel montant qu'on voudrait minimum avoir pour pouvoir partir dignement, comme on dit. Parce que moi, j'avais encore une maison à payer, d'autres étaient en location. Chacun avait une situation financière différente, donc chacun voyait ce qu'il lui faudrait pour dire être quelques années, être tranquille sans retrouver pas de travail. Mais après, c'est sûr que c'est pas parce qu'on a eu 50 000 de primes extra-légales que ça remplace un travail. J'aurais préféré rester chez Goodyear encore 15-20 ans. Ça aurait été bien mieux pour moi, pour tout le monde. Mais on ne voulait pas partir avec les mains dans les poches, comme beaucoup de boîtes, et qu'ils ne veulent rien donner à ceux qui les ont permis de s'enrichir. Moi, j'ai fait partie de la deuxième vague de licenciement. J'ai eu ma lettre de licenciement au mois d'avril. Et quelque part, c'était une délivrance de ne plus aller chez Goodyear et rester à rien faire. Ce qui a été dur, c'est de ne plus voir les copains, c'est sûr, mais quelque part, c'était une délivrance moralement par rapport aux enfants, à l'épouse, à la maison, c'était bien mieux, on est revenu plus stable. De ce fait, j'ai fait un bilan de compétences que je ne savais pas du tout dans quelle direction partir. Et là, on parle de nous, on parle de par rapport à notre passé, nos diplômes. Ce qui en suivi, j'ai fait une formation j'ai une remise à niveau de tourneur faiseur sur commande numérique. La formation en elle-même s'est passée très bien, mais vu le niveau des formations, ce qui nous a absolument pas retrouvé du travail, c'est plus donner de l'argent à des organismes qui, pour eux, gagner de l'argent. Parce que les formations ne sont pas du tout adaptées au marché du travail. Et après, j'ai retrouvé du travail en intérim. Sur Amiens, sur Arras, moi j'habite à la mine du Pas-de-Calais. Et 15 jours après, j'étais contacté par une voie d'intérim pour travailler à Valéo. C'est de l'usinage qui correspondait un peu à la formation. Mais après, c'est pareil. Valéo, ils prennent 18 mois, mais ils n'embauchent absolument pas les personnes. Donc j'ai essayé d'avoir une première expérience en agroalimentaire, parce que je sais qu'en agroalimentaire en Picardie et dans le Pas-de-Calais, ça recrute encore un peu. Donc j'ai fait 18 mois au 10 de cette vallée, c'était une fabrication de pâtisserie industrielle, tout ce qui est beignet, muffin, c'est eux qui font les muffins pour les McDonald's, et c'était de l'emballage et puis la mise en palette. Sur ces 18 mois-là, après j'ai travaillé un peu à Gendas, fabrication de glace que tout le monde connaît, J'ai travaillé 4 mois là-bas. Et actuellement, je travaille au domaine Picard, à Villers-Bocage. C'est de la fabrication de jambon pour les grands supermarchés, Auchan, Géant, Carrefour sur Amiens. Et les pâtés Picard que tout le monde connaît. C'était un gros changement pour moi, déjà, parce que moi, je suis passé d'un monde sale, noir, à un monde propre, avec beaucoup d'hygiène. Par contre, la seule différence, c'est que dans l'agroalimentaire, on fait beaucoup d'heures. Et on fait beaucoup de rab. Avant, j'avais des horaires bien fixes. Là, maintenant, je peux faire des journées de 10 heures, des fois moins, des fois plus. C'est sûr que, question financièrement, je gagne beaucoup moins qu'à Goudière. J'ai perdu, on va dire, en pourcentage, j'ai dû perdre au moins 40% de mes revenus. Après, on espère toujours trouver un CDI, mais si ça se passe bien, là où qu'on travaille. Mais après, il y a l'âge qui rentre en jeu. Ce sont les entreprises, il y a l'image des Goudières, parce que des fois, quand vous passez l'entretien, on demande si on était syndiqué ou pas, ou des trucs comme ça. Et à chaque fois, ça se passe bien. Mais à la fin des 18 mois, est-ce qu'ils peuvent nous garder que 18 mois? On nous dit qu'ils ne peuvent pas embaucher, est-ce qu'ils ne peuvent pas embaucher, quoi, voilà. Actuellement, où je travaille, là, je sais que le vendredi, si je travaille la semaine qui suit. Parce que c'est des contrats la semaine. Et le chef, quand je finis avant de partir, qui vient me voir, qui me dit bah, la semaine prochaine, tu es soit du matin, soit d'après-midi, c'est bon, t'es encore là. Dans mon ancienne équipe, on devait être aux alentours de 22, 23 ouvriers, je ne sais plus exactement combien. Je pense qu'il y a peut-être 4-5 personnes qui ont retrouvé un CDI, et encore. Je sais qu'il y a mon ancien chef qui a retrouvé un CDI. Et après, je sais que j'ai un collègue qui s'est mis à son compte taxi. Et après, pour tous les autres collègues, il y a beaucoup de collègues que je sais que c'est de beaucoup d'intérim, comme moi, et puis il y en a qui n'ont pas retrouvé de travail du tout non plus.
C'était Les Anciens de Goudière, un reportage de Judith Chétrit, réalisé par Clémence Grosse avec un coup de main d'Emmanuel Geoffroy. Merci à Michael Semedo, à Eric Monvoisin, à Sébastien Auvray, à Sabrina et à Maître Fiodor Rilov. Sachez qu'au 15 janvier 2018, 15% des anciens salariés de Goudière avaient retrouvé un CDI, 18% sont en CDD ou en intérim de plus de 6 mois, 10% ont créé une entreprise, 15% sont à la retraite et 18% en formation longue. Donc en gros, ça fait un quart des salariés qui n'ont pas ce qu'on appelle trouver de solution identifiée, autrement dit qui n'ont pas retrouvé de travail. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Camille Richir, c'est notre stagiaire.